Merci d'écouter RFI. Il est midi en temps universel, 14h ici à Paris. C'est l'heure du journal. Bonjour Charlotte Hydrac.
Bonjour Anne Cantner. Bonjour à toutes et à tous. Vers la reconnaissance d'un État palestinien par la France, le président Macron a ouvert la porte avec une échéance, le mois de juin. Un pas dans la bonne direction, selon l'autorité palestinienne. La diplomatie israélienne, en revanche, dénonce une récompense pour le terrorisme. Les montagnes russes sur les bourses mondiales, c'est l'euphorie aujourd'hui après le plongeon d'hier et après le revirement spectaculaire de Donald Trump sur les droits de douane, l'Union européenne suspend à son tour ses mesures de rétorsion prévues à l'encontre des États-Unis.
RFI.
À suivre aussi dans ce tour du monde, les Yakuza, la pègre du Japon, qui s'engage à mettre fin à ces conflits internes qui tournent mal en général. Le boom de la consommation d'électricité des centres de données dopés par l'IA, elle devrait plus que doubler d'ici 2030. Et puis la sélection officielle du Festival de Cannes dévoilée, le coup d'envoi, c'est dans un mois sur le tapis rouge. On retrouvera quelques nouveaux venus et des habitués.
Il a longtemps hésité et temporisé. Le président français ouvre donc la voie à la reconnaissance d'un État de Palestine.
On doit aller vers une reconnaissance, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron sur la chaîne France 5. Et donc, dit-il, dans les prochains mois, on ira. Le chef de l'État a évoqué le mois de juin à l'occasion d'une conférence internationale à l'ONU. Il dit vouloir participer à une dynamique collective et la classe politique est divisée sur cette démarche. Vous l'avez constaté, Victorien Villaume, à l'Assemblée.
Les plus satisfaits, la France insoumise qui réclame régulièrement la reconnaissance de l'État de Palestine. Cette volonté doit se traduire en actes, prévient toutefois leur chef de file, Mathilde Panot. Satisfaction également du PS qui voit cette annonce comme un moyen de faire pression sur Benjamin Netanyahou. Béatrice Bellé.
Ça va au-delà d'un symbole. Il est temps pour qu'un État avec des représentants légaux puisse aujourd'hui siéger dans les instances et organiser finalement le pays.
Cette reconnaissance serait cohérente avec la position de la France depuis le général de Gaulle, affirme-t-on au Modem. Philippe Vigier salue d'ailleurs un acte très fort.
Ça compte la voix de la France dans le monde. Poser cet acte-là au moment où on voit bien que le cessez-le-feu ne fonctionne plus, ça peut paraître prématuré, mais le président a raison, il faut à un moment prendre le devant sur les autres et dire haut et fort ce que pensent d'ailleurs beaucoup de Français.
Un parti, en revanche, détonne, le Rassemblement National, pour qui cette annonce est prématurée, Gaëtan Dussaucé.
La reconnaissance d'un État palestinien, c'est prendre le risque de reconnaître un État sous l'autorité du Hamas, d'une organisation terroriste et islamiste qui plus est.
L'ambition d'Emmanuel Macron est également de participer à une dynamique collective pour que ceux qui défendent la Palestine reconnaissent à leur tour Israël.
Victorien Villaume à l'Assemblée, cette démarche aussitôt rejetée par le ministre des Affaires étrangères de l'État hébreu. Pour lui, une reconnaissance par Paris de la Palestine serait une récompense, je cite, pour le terrorisme et un coup de pouce pour le Hamas. L'autorité palestinienne, de son côté, salue un pas dans la bonne direction.
Alors, quelles conséquences, que signifierait cette reconnaissance par la France? On posera la question dans un quart d'heure à notre invité, l'historien Thomas Vescovi.
Et sur le terrain, pourtant, la possibilité de création d'un État palestinien semble bien lointaine. Les bombardements se poursuivent sur Gaza. La Cisjordanie occupée, elle, vit au rythme des déplacements de population. Amira Swilem a rencontré à Tul Karem un Palestinien déplacé plusieurs fois depuis la création de l'État d'Israël et qui a dû à nouveau faire ses bagages il y a quelques jours.
Avec beaucoup de fierté, Walid Hussein Ali arbore sa carte d'identité.
Je suis né le 9 janvier 1947 à Haïfa. Je suis né à Haïfa. En 1948, ma famille a dû quitter Haïfa du fait des attaques de la Haganah et des soldats israéliens. Ma famille est d'abord restée dans un premier village, puis elle est partie pour Jenin. Et pour finir, on nous a déplacés vers Nour Shams en 1952.
73 ans après son arrivée dans ce camp de réfugiés des faubourgs de Tul Karem, Walid Hussein Ali a dû partir à nouveau.
En fait, ce sont mes enfants qui m'ont demandé de partir parce que j'aime bien rester dans le jardin et arroser mes arbres alors que eux vivent à l'intérieur sans allumer les lumières de façon à ce que l'armée israélienne ne les remarque pas. L'armée est à environ 150 mètres de chez nous seulement. Les destructions qui ont lieu à Nour Shams sont au-delà de l'imagination. On ne sait pas si on va pouvoir rentrer après ces déplacements. Jamais on n'aurait pu imaginer ça de notre vie.
À 78 ans, et malgré les risques, le vieil homme confie que de temps en temps, il se faufile de nuit dans son ancien quartier pour pouvoir rendre visite à ses 40 petits-enfants. Amira Suilem, Tulkarem, RFI.
Après le plongeon, le rebond sur les bourses mondiales.
Oui, les marchés soulagés après le revirement de Donald Trump sur les droits de douane dits réciproques. Le président américain appuie sur pause pour 90 jours et revient au taux plancher de 10% pour tout le monde, sauf pour la Chine qui se voit imposer une nouvelle augmentation, plus 125% sur ses produits importés aux États-Unis. L'Union européenne, qui avait annoncé hier une première série de mesures de riposte, les suspend à son tour. Et les bourses donc ont retrouvé des couleurs. Nicolas Feldman, bonjour.
Bonjour Charlotte.
Donald Trump s'en défend, mais il a bel et bien cédé face à la pression des marchés.
Oui, difficile d'ignorer les pertes de ces derniers jours. À Wall Street par exemple, ce sont des milliers de millions de dollars de capitalisation boursière qui ont été effacés en 4 séances du jamais vu depuis le Covid. Pourtant, Donald Trump le jure, jamais il n'a paniqué. Cela fait même partie de sa stratégie depuis le début, a expliqué le secrétaire au Trésor, Scott Bessent. En d'autres mots, Donald Trump voulait donc frapper très fort avant ensuite de négocier.
Mais c'est aussi, Nicolas, le marché des obligations qui a fait plier Donald Trump, c'est ça ?
Oui, c'est sur ce marché que les États-Unis empruntent pour se financer. Sauf que ces derniers jours, les taux d'intérêt des bons du Trésor américain se sont envolés. Un très mauvais signal pour l'État fédéral qui affiche déjà un très gros déficit budgétaire. Et cela n'a pas échappé à Donald Trump. Il l'a redit hier soir comme pour justifier son recul.
Le marché des obligations est très compliqué. Je le surveillais hier soir et c'est vrai que les gens étaient un peu nerveux. Mais si vous le regardez maintenant, il se porte très bien.
Voilà, désormais, c'est une nouvelle phase de la guerre commerciale qui s'ouvre. Retour donc à 10% de droits de douane un peu partout dans le monde, au moins pour 90 jours. Le temps, dit Donald Trump, de négocier avec les 75 pays qui se sont manifestés. Une pause pour tous, Charlotte, sauf pour la Chine qui, au contraire, voit les taxes sur ses produits explosé. Ils sont désormais taxés à hauteur de 125%.
Et oui, Nicolas Feldman, l'offensive commerciale américaine a donc tourné au duel entre Washington et Pékin. Mais les consommateurs chinois, eux, se disent prêts à s'adapter.
Je n'achète presque toujours que des produits nationaux. Je ne pense pas que je finirai par tomber dans ce genre de piège tarifaire. Mais si à l'avenir, par exemple, j'ai vraiment besoin d'acheter un produit importé, cela aurait certainement un impact. Mais j'ai déjà changé. Je suis passé à Xiaomi. Je n'utilise cet iPhone que pour le travail.
Acheter local, bien sûr, inutile d'en dire plus. Donc oui, ça ne changera pas la donne pour moi, pas vraiment. Ce n'est qu'un produit électronique ou un vêtement, juste un objet. J'utilise simplement ce qui est le mieux, c'est surtout une question de prix. Nous sommes tous des travailleurs, donc si le prix est correct, je l'utilise, sinon je change.
Réaction Bardo au micro de Cléa Broderst.
Voilà ces soupçons exprimés par plusieurs élus démocrates aussi aux États-Unis qui estiment à propos de ces droits de douane et du revirement de Donald Trump que le président américain a peut-être commis un délit d'initié en encourageant à acheter des actions juste avant d'annoncer donc sa décision et sa volte-face.
RFI Midi.
Un échange de prisonniers entre les États-Unis et la Russie.
Oui, c'est le deuxième depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. C'est un nouveau signe du réchauffement des relations entre Washington et Moscou. La danseuse russo-américaine Ksenia Karelina a été libérée par la Russie. Elle avait été condamnée l'an dernier, pour avoir fait un don de $100 à une association ukrainienne.
Charlotte Hydrak, on va vous laisser boire un peu d'eau. Cette danseuse russo-américaine, elle a été relâchée en échange d'un germano-russe, Arthur Petrov, arrêté par les Américains en 2023, accusé d'avoir exporté illégalement des composants électroniques pour un usage militaire vers la Russie. Moscou, qui a réagi à son tour aux accusations de Volodymyr Zelensky. Pour le Kremlin, le président ukrainien a tort de dire que la Russie entraîne la Chine dans le conflit.
Oui, Volodymyr Zelensky a dénoncé l'implication de ressortissants chinois sur le front dans les combats aux côtés de l'armée russe. Il dit avoir connaissance d'au moins 155 citoyens chinois déployés. Pékin, de son côté, dénonce des propos irresponsables de Kiev.
Le bilan s'est encore alourdi. Malheureusement, en République dominicaine, 218 morts après l'effondrement du toit d'une boîte de nuit de la capitale, le Jet Set. C'est la pire catastrophe du siècle dans le pays. 21h10 à Tokyo, au Japon, les Yakuza s'engagent à mettre fin à leurs guerres internes.
Oui, la pègre japonaise des responsables des Yamaguchi Gumi, la principale organisation du crime organisé, s'est rendue dans un commissariat. Ils ont déposé une lettre écrite dans laquelle ils disent renoncer à la violence pour régler leur conflit. Frédéric Charles, on vous retrouve à Tokyo, vous êtes en direct. Il faut dire que les Yakuza sont sur le déclin, beaucoup moins puissants que ces dernières décennies.
Beaucoup moins, et c'est à l'image du Japon. Les Yakuza sont victimes du vieillissement de la population, de l'incertitude économique et de lois anti-gang qui leur interdisent d'ouvrir des comptes bancaires, d'obtenir une assurance, de posséder une carte de crédit. Yakuza n'est plus un métier d'avenir. Leurs adhérents ont plus de 50 ans en moyenne, 15% d'entre eux ont plus de 70 ans. Il y a moins d'argent, plus de garantie d'une retraite dorée, pas étonnant s'ils ont du mal à recruter des jeunes. Dans la finance, l'immobilier, la construction, la plupart des activités des Yakuza sont légales. Certaines de leurs entreprises sont cotées en bourse. Ça ne les empêche pas de continuer à transgresser la loi dans la prostitution, les paris clandestins, le crédit à la consommation, à des taux usuriers. Reste que les Yakuza sont sur le déclin. Certains en sont réduits à voler des cartes Pokémon et d'autres produits dérivés des jeux vidéo. Dans leur publication interne, qui comprend une rubrique poésie, les Yamaguchi Gumi exhortent leurs membres à faire preuve de résilience et de loyauté en ces temps difficiles.
Frédéric Charles, en direct de Tokyo, le trafic de cartes Pokémon, donc il n'y a pas de petits profits.
On le sait, l'intelligence artificielle est énergivore et les centres de données ont de plus en plus d'appétit avec l'essor de l'IA dite générative.
Autrement dit, celle avec qui on peut dialoguer. L'Agence internationale de l'énergie a chiffré ses besoins. Selon son rapport publié aujourd'hui, la consommation d'électricité des data centers, donc des centres de données, va plus que doubler. D'ici 2030, c'est un défi pour la sécurité énergétique, Pauline Glaise, et cela aura forcément un impact sur les émissions de gaz à effet de serre.
L'an dernier, après quelques années de croissance à deux chiffres, les centres de données consommaient déjà 1,5% de l'électricité mondiale. D'ici 5 ans, cela devrait passer à un peu moins de 3% et ces centres consommeront davantage que le Japon actuellement. Et puis c'est une consommation concentrée. L'Europe, la Chine et les États-Unis représentent aujourd'hui la grande majorité des zones d'implantation. Cela veut dire qu'il y aura localement de gros besoins. Par exemple, un centre de données peut consommer actuellement l'équivalent de 100 000 ménages. Demain, ils pourront atteindre l'équivalent de 2 millions de foyers. Alors selon Laura Cozzi, en charge de la durabilité à l'Agence internationale de l'énergie, cela ne sera pas neutre.
Cette électricité supplémentaire va nécessiter davantage d'énergie et une partie de cette énergie émettra plus que ce que l'on avait anticipé.
Car rappel est fait aux énergies fossiles, principales responsables du réchauffement climatique, le charbon répond actuellement à 30% des besoins des centres de données. Cela dit, l'AIE estime que les renouvelables et le gaz naturel devraient tirer leur épingle du jeu, mais ce dernier est aussi émetteur de gaz à effet de serre. Le secteur entraînera d'ici 2035 une hausse de 67% des émissions liées à la consommation électrique.
Qui montera les marches du Festival de Cannes ? La sélection officielle a été dévoilée ce matin.
À un mois du coup d'envoi de la 78e édition du Grand Rendez-vous du cinéma, on savait déjà que Tom Cruise foulera le tapis rouge et bien d'autres stars internationales seront de la partie. Bonjour Sophie Tarlotin.
Bonjour Charlotte, bonjour à tous.
Vous avez suivi la publication des films donc qui seront projetés à Cannes, notamment ceux en lice pour la prestigieuse Palme d'Or. Et comme chaque année, c'est un subtil mélange de réalisateurs connus déjà primés et de nouveaux venus aussi.
Oui, il y a en effet les habitués comme les Belges Luc et Jean-Pierre Dardenne, l'Iranien Jafar Panahi, le Brésilien Kléber Mendoza-Filien, l'Américain Wes Anderson ou encore la Française Julia Ducournau qui remporta la Palme d'Or il y a 4 ans. Et puis les cinéastes qui auront pour la première fois les honneurs de la compétition. C'est le cas de l'actrice Avia Herzi qui présentera son troisième long métrage, La Petite Dernière, ou du Sud-Africain Oliver Hermanus en lice pour la Palme d'Or avec un film américain The History of Sound, une romance homosexuelle et musicale pendant la Première Guerre mondiale. C'est d'ailleurs la musique qui donnera le ton de ce 78e festival. La comédie musicale d'Amélie Bonin, c'est un premier long métrage. Partir un jour est en effet le film d'ouverture. Voilà de quoi mettre un peu de légèreté et de paillettes dans une sélection qui reflète l'état du monde et de ses violences. Par exemple, en compétition, l'Ukrainien Sergei Losnitsa s'intéresse aux purges des années 30 en l'URSS avec deux procureurs. Et dans la section Cannes Première, le cinéaste haïtien Raoul Peck livre un documentaire sur l'auteur de 1984, George Orwell, dont les mots et l'engagement font écho à l'actualité brûlante.
Sophie Torletta, rendez-vous donc pour ce festival de Cannes du 13 au 24 mai. Il est grand temps pour moi de rentrer l'antenne. Désolée pour ce chat dans la gorge, c'est à vous, Anne Cantner.
Charlotte Hydrac, une boisson chaude, du citron, du miel et on vous retrouve tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Pour l'heure, on va parler de l'actualité sportive. Bonjour Christophe Dirimbio.
Bonjour Anne.
Du football d'abord, le dernier carré de la Ligue des Champions se rapproche pour le Paris Saint-Germain, vainqueur d'Aston Villa, 3-1 en quart de finale aller hier soir au Parc des Princes.
Oui, encore un match où l'adversaire du PSG y a cru une mi-temps ou presque, but de Rodgers à la 39e minute, avant que le talent offensif parisien finisse par s'exprimer par trois bijoux de Doué, Kvaratskhelia et Nuno Mendes, domination dans le jeu et victoire logique pour les joueurs de Luis Enrique. De quoi se rendre mardi à Birmingham sans trop de pression, juste avec la vigilance nécessaire lors d'un match retour à l'extérieur, estime le milieu de terrain portugais Vitinha, qui ne boudait tout de même pas son plaisir hier soir.
Un bon sentiment de joie, on a bien joué, on a bien gagné, c'était mérité, donc un bon match et une bonne victoire pour nous. On a encore une fois bien réagi et voilà, c'est tout à fait la force de cette équipe, la force de ce groupe. Il faut profiter de cette phase, cette dynamique. C'est pas fini. Le Champions League, c'est terrible, on sait déjà. Donc on va être prêt, alerte, et on va faire un bon match là-bas pour passer.
Vitinha avec Cédric De Oliveira, l'autre quart de finale aller de la soirée, laisse encore moins de suspense pour la seconde manche, puisque le FC Barcelone a écrasé le Borussia Dortmund 4-0 à domicile, grâce notamment à un doublé de Robert Lewandowski.
Autre compétition de la semaine européenne. Ce soir, les quarts de finale aller de la Ligue Europa. Lyon accueille Manchester United.
Dans un Groupama Stadium plein à craquer, plus de 58 000 spectateurs attendus, nouveau record d'affluence en perspective. Ambiance garantie, mais pour tout dire, elle a commencé à monter dès hier en conférence de presse, lorsque le milieu de terrain de l'OL, Nemanja Matic, a répondu à une pique du gardien camerounais des Mancuniens, André Onana. Il avait déclaré dans la presse anglaise que son équipe, pourtant larguée en première ligue, était bien meilleure que celle de Lyon. Fallait pas l'énerver, Matic, lui-même ancien joueur de United, Onana en a pris pour son grade.
Vous savez, pour dire ça, il faut être vraiment sûr de soi. Ça vient d'Onana. Je veux pas manquer de respect, mais quand on fait ce genre de déclaration, on doit pouvoir répondre aussi sur le terrain. Quand on est un des pires gardiens de Manchester United, mieux vaut peser ses mots. Si David De Gea, Peter Schmeichel ou Edwin van der Sar avaient dit ça, je l'aurais pris au sérieux. Mais lui, il est parmi les gardiens qui ont les plus mauvaises statistiques de l'histoire de son club. Donc bon, on verra bien.
Rhabillé pour l'hiver, hein. Évidemment, André Onana, qui a remporté la Coupe d'Angleterre quand même l'an passé avec Manchester United, a remis une petite pièce dans la machine, hein, sur X, en déclarant « Au moins, moi j'ai remporté un trophée avec le plus grand club du monde, tout le monde ne peut pas en dire autant ». Autant vous dire que ça promet pour ce soir.
Bonne ambiance.
Si les deux se croisent, ce qui est pour l'instant pas garanti, Matic est peut-être titulaire, on verra. Ce soir, le vrai match, en tout cas lui, il commencera à 19h, temps universel. Quart de finale, aller également en Ligue Conférence, la plus petite des Coupes d'Europe. Parmi les duels, le déplacement de Chelsea au Legia Varsovie.
Et puis un mot de tennis, Arthur Fils poursuit sa route au Masters 1000 de Monte Carlo.
Oui, le dernier Français en lice qualifié ce matin pour les quarts de finale en battant le Russe Andrei Rublev 6-2-6-3. Il affrontera demain le vainqueur du match à suivre entre le numéro 3 mondial Carlos Alcaraz et l'Allemand Daniel Altmaier.
Merci Christophe Dirimzian.
RFI. Le Monde à midi.
Tout de suite, on retrouve notre invité, l'historien Thomas Vescovi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorant en études politiques à l'EHESS et à l'Université libre de Bruxelles, cofondateur de Yanni.fr, et vous avez écrit le livre « L'échec d'une utopie, une histoire des gauches en Israël », paru aux éditions La Découverte. Le président français a annoncé hier qu'il comptait reconnaître l'État de Palestine au mois de juin prochain. Avant de rentrer dans les détails, qu'est-ce que ça change, une reconnaissance par un État comme ça de l'État de Palestine ?
Alors, sur le plan strictement, disons, matériel et territorial pour les Palestiniens, ça ne change absolument rien, malheureusement, si cette déclaration n'est pas suivie, en fait, d'actions, disons, diplomatiques ou de sanctions. Ce que je voudrais expliquer par là, c'est qu'en fait, la reconnaissance, elle permet ensuite à différents processus juridiques d'avoir encore plus de force et d'ampleur pour faire condamner l'État d'Israël si l'occupation et la colonisation des terres palestiniennes, qui du coup se ferait sur un territoire que la France reconnaîtrait comme État de Palestine, ça donne de l'ampleur pour poser des sanctions. La question centrale, c'est que ça va donner évidemment encore plus de force aux Palestiniens dans leur combat international pour faire reconnaître leurs droits et leur légitimité à avoir un État. Mais évidemment, il faut que la reconnaissance soit suivie d'effet. Si on peut prendre quelques exemples, l'Espagne ou l'Irlande, qui ont reconnu l'État de Palestine ces derniers mois, ont dans la foulée, par exemple, manifesté leur soutien à la plainte qui a été déposée auprès de la Cour internationale de justice par l'Afrique du Sud pour faire condamner l'État d'Israël et engager des poursuites contre la politique de cet État.
Donc c'est une première étape. Emmanuel Macron a expliqué que cela interviendrait en juin prochain et le cadre n'est pas anodin puisque, a priori, cela devrait se passer lors d'une conférence qui sera organisée avec l'Arabie Saoudite.
En fait, depuis quasiment 2017 qu'Emmanuel Macron a été élu, cette question de la reconnaissance, qu'il faut le rappeler, ne date pas en fait de ce président-là. Déjà sous François Hollande, il avait été évoqué cette option-là. La diplomatie française considère véritablement que la reconnaissance de l'État de Palestine, c'est pour eux une arme maîtresse. C'est un joker important qu'ils veulent vraiment sortir au moment le plus opportun. Et donc, on avait depuis un moment, la diplomatie française expliquait qu'elle ne voulait pas le faire tant qu'il n'y avait pas un autre pays, au moins du G7, qui serait à leur côté. On avait à un moment donné entendu parler du Royaume-Uni, du Japon, du Canada. Pour l'instant, ça n'a pas vraiment évolué. Mais en revanche, effectivement, cette perspective de juin aux côtés de l'Arabie Saoudite, qui se veut la nouvelle grande puissance de la région, ça aurait, disons, une espèce de force supplémentaire à la France pour pouvoir faire cette reconnaissance et cette déclaration.
Voilà, l'enjeu, c'est l'adhésion de Riyad aux accords d'Abraham qui avaient mené il y a quelques années les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc à reconnaître la Palestine. Aujourd'hui, on sait que l'Arabie Saoudite est nettement moins partante.
En fait, ce qui s'est passé, c'est surtout que l'Arabie Saoudite est dans une configuration qui est différente. Les pays que vous avez cités avaient fait acte de reconnaissance de l'État d'Israël et accord via les accords d'Abraham dans un contexte où concrètement la question palestinienne avait été mise en périphérie de la diplomatie internationale. On en parlait beaucoup moins, alors même que sur le terrain, la situation devenait criante. On était avant le 7 octobre et vous aviez une explosion des victimes de l'armée israélienne dans les territoires palestiniens, une explosion des attaques de colons contre des civils palestiniens. Les chiffres sur les sites du site des Nations Unies sont explicites. Et l'Arabie Saoudite s'apprêtait effectivement à aller dans cette direction-là. Sauf que la politique qui est menée depuis 7 octobre, à la fois en Cisjordanie, où on a véritablement une pression mise sur les populations palestiniennes, et celle dans la bande de Gaza, où le caractère génocidaire fait de plus en plus consensus au sein de la communauté internationale, nécessairement les Saoudiens ne peuvent plus aller dans la même direction sans qu'il y ait des symboles forts donné aux Palestiniens en vue effectivement d'un État. Ce que je voudrais juste ajouter, ça me semble important, vous avez en fait depuis quelques semaines maintenant un plan qui a été fait par plusieurs pays arabes qui touchent la bande de Gaza, et ce plan effectivement est important parce que il met dans la balance la possible reconnaissance d'État d'Israël par de nombreux États de la région avec des normalisations et une pacification. La contrepartie qui est demandée en revanche, c'est que l'État d'Israël s'engage dans un processus permettant la création d'un État palestinien pleinement souverain. Alors, pour le moment, l'État d'Israël et son gouvernement en tout cas refusent de s'y résoudre.
Dans ce plan qui est préparé par les pays arabes, il est aussi prévu que le Hamas soit mis à l'écart. Ça, c'est aussi ce que souhaite le président français, il l'a dit récemment. Est-ce que ça pourrait faire partie, selon vous, d'un deal, reconnaître l'État de Palestine en échange d'une mise de côté définitive du mouvement responsable des attaques terroristes du 7 octobre ?
J'ai envie de vous dire oui, sauf qu'en fait c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire que la bande de Gaza aujourd'hui, si le Hamas demain dit bien ce qu'ils ont déjà leur affirmé, on est prêt à déléguer ou à laisser le pouvoir, la question c'est qui remplace ? L'autorité palestinienne et Mahmoud Abbas sont complètement décrédibilisés auprès de la population palestinienne. Il y a une absence totale de renouvellement de la direction politique palestinienne. Et c'est là, en fait, où le point par lequel j'ai commencé cet entretien est important. La reconnaissance doit s'accompagner de sanctions et de politiques coercitives à l'encontre d'Israël. Précisément parce que dans les prisons de l'armée israélienne, vous avez des milliers et des milliers de prisonniers politiques palestiniens
comprenant également des responsables politiques. On pense notamment évidemment à Marwan Barghouti qui est le plus connu. Sans la libération de ces cadres politiques-là, il ne peut pas y avoir en Palestine de renouvellement complet du champ politique et de la direction politique qui peut, à l'inverse, justement permettre ce renouvellement d'aller vers l'avant et donc de voir entre Gaza et la Cisjordanie une unité palestinienne et un nouvel avenir qui s'écrirait effectivement avec le Hamas qui serait mis hors du pouvoir dans la bande de Gaza.
Alors il y a la gestion politique, il y a la situation matérielle aussi, il nous reste assez peu de temps, mais aujourd'hui Gaza est dévastée, l'armée israélienne a étendu les zones dans lesquelles elle est présente, la colonisation se poursuit aussi en Cisjordanie occupée. À quoi ressemblerait un État palestinien ?
C'est toute la question. Et c'est pour ça que la reconnaissance sans sanction, en fait, ne servirait strictement à rien pour les Palestiniens. Le gouvernement israélien, il faut le redire, ça me semble déterminant, a exprimé explicitement, sans ambiguïté, sa volonté de faire appliquer le plan Trump, plan qui avait été présenté un peu comme fantasque quand il avait été affirmé par Donald Trump. Nous étions plusieurs à dire, attention, non, il lève un tabou Donald Trump, en affirmant que la solution à Gaza, c'est le déplacement de la population et la reprise en main de Gaza par une force qui ne serait pas palestinienne. Ça permet, côté israélien, à légitimer des plans qui sont des plans de nettoyage ethnique et de volonté de s'emparer de la bande de Gaza, au profit uniquement de l'État d'Israël et au détriment évidemment de tout avenir politique pour les Palestiniens.
Merci Thomas Vescovi, doctorant en études politiques à l'EHESS et à l'Université libre de Bruxelles. Je redonne le titre de votre livre, L'échec d'une utopie, une histoire des gauches en Israël, publié aux éditions La Découverte. Merci.
Bonne journée.
Dans 3 minutes, l'actualité africaine, mais avant on va faire escale en Italie où beaucoup ne partagent pas la volonté générale européenne de se réarmer. Les Italiens sont 62% à considérer qu'il y a autre chose à faire, qu'il y a des dépenses plus urgentes. Ils l'ont dit lors d'une grande manifestation le week-end dernier à Rome, à laquelle assistait notre correspondant Olivier Bonnel. On sentait sur place un double héritage, celui du communisme et du catholicisme.
Ils sont des dizaines de milliers à avoir défilé samedi dernier dans le centre de Rome à 2 pas du Colisée, avec un slogan « Non à la guerre et au plan de réarmement européen » proposé début mars par la Commission européenne. Sur la scène, celui qui a organisé la manifestation, Giuseppe Conte, l'ancien chef du gouvernement italien et patron du mouvement 5 étoiles.
Je crois qu'il y a ici une idée forte et claire que tout le monde a en commun. Nous disons non à ce plan fou de réarmement, nous disons non à 800 milliards d'euros qui seront dépensés non pas pour un plan sérieux de défense européenne, mais pour armer les pays membres.
Armare i singoli paesi.
Dans la foule, on est venu de toute l'Italie. Nadia et Maria ont pris le train depuis Naples pour venir dénoncer la rhétorique belliqueuse de certains pays européens. Dans les mains de Nadia, un montage photo fait pour l'occasion.
C'est un char conduit par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui roule sur l'agenda 2030. Les objectifs que l'ONU a fixés pour qu'ils soient atteints d'ici cette date. Et parmi ceux-là, le numéro 16, c'est justement la paix.
C'est proprio la pace.
Un peu plus loin dans la foule, Stefano distribue des tracts anti-OTAN. Antimilitariste depuis des années, il se bat notamment contre les nombreuses bases de l'Alliance Atlantique disséminées sur le sol italien.
La société a besoin d'investissements dans la santé, l'éducation. Nous n'avons pas besoin de tout cela, nous avons seulement besoin de paix.
Outre les courants de gauche et pacifistes, une autre frange de l'Italie est foncièrement contre la guerre, les mouvements catholiques. Il y a quelques semaines, une grande marche est partie d'Assise en Ombrie, la ville de Saint-François, jusqu'à Rome, mouvement parmi les plus importants de la galaxie catholique italienne, la communauté Sant'Egidio. Connue pour ses médiations de paix et son travail humanitaire, Mario Giro est le responsable des relations internationales de l'association. Il nous explique d'où vient cette forte opposition des Italiens à la guerre.
Il y a une explication politico-culturelle, disons, la culture catholique et aussi ce qui reste de l'ancienne culture communiste sont foncièrement contre la guerre, surtout les catholiques, après, disons, l'enseignement des papes du siècle dernier.
Face à la course aux armements, l'Italie veut maintenir une voie singulière au sein de l'Europe, celle d'un pays médiateur. Ce pacifisme plus ancré que chez ses voisins a des racines profondes qui se résument dans sa constitution de 1948, où il est écrit noir sur blanc que l'Italie répudie la guerre. Olivier Bonnel, Rome, RFI.
Restez avec nous, on se retrouve dans une minute pour l'actualité africaine. A tout de suite.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix.
Pascal Paradou.
Que veut dire parler parisien ? À en croire le linguiste Gilles Soufi, c'est tout sauf parler pointu, c'est parler métissé. Car de tout temps, Paris a été un melting pot linguistique. On y parle aujourd'hui une centaine de langues. Dans Paris-Babel, il retrace cette histoire du gaulois à l'argot.
Écoutez De Vive Voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI,
c'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Champs inondés, logements fissurés, coupures d'eau, 11 sinistrés et 3 ONG attaquent l'État français en justice pour l'obliger à renforcer ses mesures d'adaptation au changement climatique. Ils nous expliquent leurs combats et leurs attentes.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.